sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour. En préambule de cet après-midi, cette deuxième partie de la quatrième édition des conversations chez Monsieur Thiers, je souhaite exprimer le regret très vif de Monsieur François Dorcival, qui ne pourra animer ces conversations. François Dorcival, qui est conservateur de l'Hôtel Donne-Thiers, membre de l'Institut, journaliste et historien, met en œuvre depuis 2016 ces conversations qui sont des échanges sur des débats, sur des thèmes d'actualité d'histoire, avec le concours bien évidemment très enthousiaste de nombre de ses confrères et de ses consoeurs. Donc les conversations de cet après-midi sur des thèmes variés seront animées par le professeur Philippe Devillain, grand historien, spécialiste du catholicisme et de la papauté. Il sera question de Notre-Dame, un thème bien évidemment historique et patrimonial et d'actualité, avec le grand médiéviste et philologue Michel Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et membre de l'Académie des françaises. Ensuite, nous écouterons Alain Duhamel, journaliste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui nous entretiendra sur le thème de Macron II. Voilà. Et puis, en fin de séance, nous écouterons donc le géographe Jean-Robert Pitt, qui parlera d'un thème aussi d'actualité et qui nous entretiendra de la planète qui, selon lui, ne va pas si mal. J'espère que vous aurez eu l'occasion ou vous aurez l'occasion de visiter la bibliothèque Thiers, qui est la première raison d'être de la fondation Donne-Thiers, donc qui est une bibliothèque historique très importante, consacrée à l'histoire du 19e siècle. Elle est située un peu partout ici, au premier étage, où sont réunis les libraires, et également au deuxième étage, et surtout au deuxième étage, à l'emplacement du cabinet de travail de Thiers, où il a écrit son histoire du consulat et de l'Empire. Et vous serez très bien accueillis par la bibliothécaire, une des deux bibliothécaires, qui vous présentera les fonds d'une façon très détaillée. La bibliothèque donc est un patrimoine à sauver, un patrimoine très riche, et partout ici nous vous solliciterons également pour nous aider dans l'important chantier qui est en cours pour la préservation des réserves de la bibliothèque. Voilà, donc vous aurez aussi l'occasion de visiter une exposition d'art, d'artisanat. Nous avons travaillé sur cette exposition en collaboration avec beaucoup d'artisans du 9e arrondissement principalement. Et cette exposition est effectivement intéressante. Quelques œuvres, enfin, je souhaite attirer votre attention sur certaines œuvres qui sont accrochées et qui sont des œuvres du peintre, ingénieur et pianiste Pierre Relkin. Voilà, je me permets de céder la parole à Monsieur Levillain.
Merci, madame. Écoutez, vous assumez la tâche difficile de faire le relais. Je suis une tâche non moins difficile, qui est d'essayer d'animer, comme fait admirablement François Dorcival depuis maintenant 4 ans, je crois, ces conversations chez M. Thiers qui correspondent à un goût assez 19e siècle, effectivement, d'échanges, comme il y avait les salons, et notamment dans ce quartier qui était celui de la Nouvelle-Athènes, où ont résidé Georges Sand, Chopin, Mademoiselle Mars d'ailleurs aussi, et bien d'autres académiciens par ailleurs, comme Henri Dansette, etc. Alors, c'est un travail assez facile à conduire, mais enfin, devant un public qui est exigeant, puisque vous êtes déplacé aujourd'hui, jour de pluie, jusqu'ici, malgré une grève larvée des métros, et malgré, je dirais, un climat qui n'est pas particulièrement favorable. Au contraire, d'ailleurs, c'est très favorable à l'entretien dans une conversation. Il va y avoir donc trois orateurs qui vont succéder. Ce sont mes confrères. Nous avons décidé de nous vousoyer, par respect pour vous, et ça va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais lancer Michel Zinc, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions des belles-lettres, académicien de la française, qui n'est pas rien, par conséquent, mon supérieur historique, au moins, bon, et mon cadet du point de vue de l'âge, je tiens à dire aussi, qui est un ami, mais derrière moi, ici, il s'agit de discours académiques et de discours véritablement, si j'ose dire, pour tous. Et donc, il est chargé d'un... Alors, vous savez qu'il a écrit un très grand livre, le fruit d'un travail au Collège de France, d'un cours au Collège de France, qui a duré 2 ans, qui a été, je crois, votre champ du cygne, Michel, à savoir l'humiliation, le Moyen-Âge et nous. Alors, je crois que sur l'humiliation, ça se relaie très bien avec Notre-Dame et le drame du 16 ou du 14 avril 2019, où je dirais que brusquement, en allumant son journal télévisé ou en allumant les réseaux sociaux, enfin bref, de bouche à oreille, comme dit Bossuet dans les réseaux funèbres dans les d'Angleterre, le peuple fut frappé de stupeur et d'étonnement en assistant sur place à l'incendie de la cathédrale, qui était une chose incroyable au sens propre, et à la chute en direct de la fameuse flèche, bâtie d'ailleurs tardivement par Viollet-le-Duc, qui était accusé par ses contemporains d'avoir tenté des innovations qui n'étaient pas du goût de tout le monde. Car Viollet-le-Duc ne fait pas l'unanimité, il le fait maintenant, puisque, si j'ose dire, en touchant à ce trésor sacré, on l'a lui-même consacré. Donc, cher Michel Zinc, Notre-Dame de Paris, c'est une humiliation pour Paris déjà, que cet incendie spectaculaire, inattendu, imprévisible apparemment.
Oui, ben, mon cher, c'est une humiliation pour moi, parce que je ne suis pas spécialiste de Notre-Dame. Tout le monde s'est précipité, je ne sais pas pourquoi, pour m'interroger sur Notre-Dame. Et alors j'ai répété en boucle ce que j'avais à dire sur Notre-Dame et qui concernait mon époque lointaine, le Moyen-Âge, de sorte que ça n'intéressait pas personne. Ça n'intéressait personne, pardon. Et plus je parlais, plus j'étais humilié. Vous avez, mon cher, donc, associé, tricoté les deux de façon indissociable, parce que je venais pour parler de Notre-Dame, ou plutôt pour répondre à des questions sur Notre-Dame en ayant prévenu que je n'avais rien à dire. Et en plus, il faut que je parle de l'humiliation dont je ne m'attendais pas à parler. Donc, c'est compliqué.
C'est la surprise du dimanche.
C'est la surprise du chef. Mais le, oui. Alors, bon, je commence tout de même par Notre-Dame. On peut même partir de la flèche. Actuellement, le débat s'est beaucoup centré sur la flèche, en particulier grâce à ou à cause de notre cher confrère et ami Adrien Goetz, qui est pour le Moyen-Âge du XIXe siècle à fond. Voilà. La question, me semble-t-il, n'est pas tellement de savoir si on reconstruit exactement la flèche de Viollet-le-Duc ou pas exactement. Tant qu'à faire, je ne vois pas pourquoi on ne la reconstruirait pas telle qu'elle, et je dirai pourquoi dans un instant. À l'époque où elle a été, où Viollet-le-Duc l'a édifiée,
eh bien, au XIXe siècle.
Au XIXe siècle,
entre
oui.
Entre 1848 et 1862, si
oui,
je ne m'abuse.
C'était une nouveauté en ce sens que les contemporains connaissaient Notre-Dame sans la flèche à la croisée du transept. Mais cette flèche avait existé. C'est-à-dire que, comme souvent avec Viollet-le-Duc, on lui a fait un procès en inexactitude qui n'était pas toujours un procès justifié. Par exemple, enfin, ça n'a rien à voir avec Notre-Dame, on a beaucoup reproché à Viollet-le-Duc d'avoir rebâti les remparts de Carcassonne en les couvrant d'ardoises, en disant oh, « les ardoises en Languedoc, on n'est pas très lasé, c'est ridicule, etc. Bon. » Et quand on a fait des fouilles plus tardives, on s'est aperçu qu'au pied des remparts, il y avait des lauzes. Ce n'était pas couvert en tuiles, c'était couvert en lauzes. Donc, évidemment, ce n'était pas de l'ardoise. Mais l'aspect des remparts couverts d'ardoise est beaucoup plus proche de l'aspect d'origine que si ça avait été couvert en lauzes. Je ferme la parenthèse. Pour en revenir à moi, puisque je dois, victime innocente, en refaire de calcasse, voilà, une voilà. tête innocente, non, victime obéissante, en refaire de calcasse, une tête innocente, pardon, le lien qui m'attache à Notre-Dame est le lien qui attache naturellement tout Parisien et tout Français à Notre-Dame. C'est aussi un lien... Parce que, il se trouve, ça pourrait être autre chose, sauf que je suis catholique, et donc Notre-Dame compte pour moi comme édifice religieux. Et en outre, je suis médiéviste, non pas historien, je ne suis pas aussi savant que mon voisin, mais un pauvre littéraire, et donc je m'occupe de textes littéraires, mais de textes à la limite de la littérature, parce que j'avais fait dans ma jeunesse ma grande thèse, comme on disait à l'époque, sur les plus anciens sermons en langue vulgaire, les débuts de la prédication en langue vulgaire romane, en français, languedoc, piémontais, catalan, que sais-je. Bon. Et j'ai été donc confronté à Notre-Dame à travers l'évêque bâtisseur de Notre-Dame. C'est ce que j'ai répété partout, et ce que je répète encore, mais qui a une certaine importance pour la suite de notre histoire. Chacun sait que la construction de Notre-Dame a été entreprise en 1163 par l'évêque Maurice de Sully. Je dis, je répète là, mais ça va être ce que j'ai dit sous la coupole au moment quand on a fait une demi-heure sur Notre-Dame avant la distribution des prix, qu'il y a eu deux évêques de Sully qui sont suivis. Maurice de Sully et son successeur, Eudes de Sully. Eudes de Sully appartenait à la famille seigneuriale de Sully et c'était un cousin du roi. Maurice de Sully était fils d'un paysan, peut-être d'un serf, originaire de Sully-sur-Loire, qui était un paysan de la grande abbaye de Fleury, aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire, et qui était probablement un bûcheron. De sorte que la charpente qui a brûlé, c'était peut-être lui qui avait coupé les arbres. Enfin bon, non, parce qu'elle a été faite un peu plus tard. Bon. Et Maurice de Sully est devenu évêque de Paris par ce système de méritocratie, dirait-on aujourd'hui, que seule l'Église, enfin je parle sous le contrôle de mon voisin, mais que seule l'Église permettait. Ce n'était pas tous les jours, mais ce n'était pas exceptionnel que le fils d'un paysan aille, lui, son père était paysan d'abbaye de Sully, on l'a mis à l'école de Sully, parce que c'était un petit garçon brillant, puis il a continué ses études à Paris, à l'abbaye de Saint-Victor, puis il est devenu maître des écoles parisiennes, l'université n'existait pas encore, et puis évêque. Alors, bon. Donc, la simple personnalité de l'évêque qui a lancé la construction de Notre-Dame permet d'une certaine façon de corriger certains lieux communs sur le fonctionnement de la civilisation médiévale. Il ne faut pas faire de Maurice de Sully un saint, c'est-à-dire que c'est certainement un personnage ambitieux et en lançant la construction de Notre-Dame, il servait à la fois sa gloire personnelle et la politique royale. Il servait aussi sa fonction, parce que à l'époque et pendant longtemps, Paris n'avait pas un archevêque, mais un évêque. Et l'évêque de Paris était suffragant de l'archevêque de Sens. En construisant dans la capitale royale une nouvelle cathédrale, l'évêque de Paris affichait même le rôle particulier qui était le sien. Mais Maurice de Sully lance la construction d'une nouvelle cathédrale pour accueillir ses fidèles de plus en plus nombreux, parce que Paris devenait une grande ville, une cathédrale qui pouvait succéder à la vieille cathédrale Saint-Étienne. C'est l'époque. Les premières cathédrales sont très souvent vouées, placées sous l'invocation du premier martyr, comme la cathédrale de Toulouse, comme la cathédrale de... Enfin, beaucoup d'autres. Et puis, le XIIe, XIIIe siècle, le développement du culte marial, elles sont placées généralement sous l'invocation de la Vierge. Donc, une cathédrale pour accueillir le peuple des fidèles. Mais son œuvre ne se limite pas là. Il a écrit un homiliaire, c'est-à-dire un recueil de sermons pour l'ensemble de l'année liturgique, pour les grandes fêtes, pour les fêtes des saints les plus importants, pour des circonstances liturgiques importantes, dédicaces d'une église ou des phénomènes de ce genre. Cet homiliaire, il a écrit, maintenant on est sûr de l'ordre, en latin. Mais il a été traduit en français, et c'est même une des premières œuvres littéraires, si on veut dire, en prose française, comme toutes les langues, la littérature française commence par le vers. Voilà. Dieu sait que le XIIe siècle est une grande époque poétique et littéraire, mais en vers. Et cet homiliaire est traduit en français, peut-être par lui-même, plus vraisemblablement un petit peu plus tard, mais enfin on n'est pas sûr, il est mort en 194, c'est plutôt la langue des premières années du XIIIe siècle, bon, c'est difficile à savoir, et puis les copistes ont pu jouer le rôle. C'est-à-dire que non seulement il a construit le vaisseau pour accueillir les fidèles, mais il a procuré à ses prêtres, aux prêtres dont il était l'évêque, l'instrument de l'évangélisation et de la prédication, et dans la langue des fidèles. Et c'était une préoccupation, je dirais pas récente, mais enfin, c'est même comme cela qu'on sait que le français n'est plus du latin. Vous savez, le français évolue de façon... Il n'y a pas un jour où on a dit, tiens, on parle plus latin, on parle français. Il y a eu un moment où l'homme de la rue, si on peut dire, ne comprenait plus le latin officiel, donc on considère qu'il parlait une autre langue.
Les documents administratifs ont changé quand François Ier a décidé par les 18e oui. Que les actes administratifs seraient en français.
En français, oui. Mais il y avait des actes administratifs en français bien avant et en Languedoc très très tôt. Mais en 813, l'année d'avant la mort de Charlemagne, un concile qui se réunit à Tours dit, à l'intention des évêques et des prêtres, il faut prêcher in lingua rustica gallica aut theotisca. Il faut prêcher dans la langue des paysans, la langue rustique, gauloise ou teutonne. C'est-à-dire que dans l'Empire de Charlemagne, il y avait les deux, il faut parler en français ou en allemand. Et à ce moment-là, on sait que le français est une langue différente, est senti comme une langue différente. Et encore lorsqu'à la fin du XIIe siècle, se donnait la peine d'écrire un recueil de sermons entiers en français, de le faire traduire en français, c'est manifester cet intérêt vital pour l'évangélisation. Et c'était quelque chose de nécessaire, vous me direz que je multiplie les digressions loin de Notre-Dame, parce que... On y revient dans une seconde, rassurez-vous mon cher. Beaucoup de civilisations, la langue savante où la langue sacrée, c'est souvent la même, reste intacte, les parlers dialectaux évoluent, mais ne deviennent pas des langues, ou très tard, des langues de culture à part entière. C'est ce qu'on voit avec le sanskrit et les langues vernaculaires de l'Inde. C'est ce qu'on voit avec l'arabe littéral et les arabes dialectaux. Dans les langues romanes, très tôt, les nouvelles langues nées sur les débris du latin parlé sont devenues des langues de culture. Pourquoi ? Parce que c'était une religion particulière. Le paganisme antique ne demandait pas qu'on y croie, la religion romaine, par exemple. On sacrifiait au rite, on faisait ce qu'il fallait, et on ne vous demandait pas ce que vous en pensiez, ça n'avait aucune importance. Tandis que le christianisme exige une adhésion individuelle. Donc il était absolument nécessaire que le peuple comprenne ce qu'on lui disait. Et, à mon avis, c'est pour cela que les langues vernaculaires romanes sont devenues très tôt des langues de culture ont été écrites et ont été écrites par les clercs qui n'avaient aucune raison de les recueillir, qui étaient de langue latine, etc. Donc ce premier homiliaire de Maurice de Sully est quelque chose de très important. Et il a eu un succès prodigieux. Il a été, d'abord parce que c'était commode, il a servi pendant des siècles de dormis et courés, comme on dit, dort tranquillement. Un dormis et couré, c'est un manuel à l'usage des curés qui leur propose des sermons tout faits. Comme ça, ils peuvent dormir tranquillement et le sermon est fait.
Ça n'existe plus.
Mais moi, je l'ai vu utiliser dans les...
Quand il y a un livre du prêtre, je crois.
À la fin des années 50, au début des années 60, fin des années 50, au début des années 60, dans le Morvan, il y avait un vieux curé qui arrivait, il ouvrait son dormisset couré et il lisait le sermon. Puis quand il avait une idée à lui, il levait le nez, puis il développait son idée personnelle, puis il recommençait. Bon. Et alors donc, cet homilia Maurice Ossier a été recopié, ben, manuscrit, imprimé plus tard, et il était encore utilisé au début du 19e siècle, il était utilisé par le curé d'Ars, l'utilisait. Parce que comme on se pressait au serment du curé d'Ars, les gens prenaient des notes, ils notaient ce qu'ils disaient. Alors on compare...
Il y a la confession.
Oui, bien sûr. Non, alors oui, mais on ne me mettait pas sur la confession, parce que ça c'est un grand sujet. Mais non, mais rien sur sur ces serments, le curé d'Ars répétait les serments de Maurice de Sully. Et on voit ce que c'est que la sainteté, n'est-ce pas ? Parce que ça faisait des siècles que tout le monde répétait les sermons de Maurice de Sully et que les fidèles dormaient, et quand c'était le curé d'Ars, ils se convertissaient comme des bouches. Mais ça, c'est le... Non, c'était comme ça.
Bon. Ils étaient déjà convertis au Moyen-Âge.
Oui, bon. oui, mais là, c'est d'après la Révolution. Et le... Bon. Et donc, je reviens tout de même à Notre-Dame. La tendance qui pousse à dire Notre-Dame pour la France, c'est Notre-Dame au XIXe siècle. C'est Notre-Dame de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est Notre-Dame de Viollet-le-Duc. C'est vrai. Mais il ne faut pas... Adrien Goetz a écrit un petit livre qui s'appelle Notre-Dame de l'humanité, qui a paru dans les 15 jours.
Qui s'appelle Le Talent, ça.
Oui. Qui est magnifique. Mais, évidemment, on peut dire, tout le monde se retrouve à Notre-Dame, tout le monde est pour Notre-Dame, qui pourrait être contre Notre-Dame, et on se sent tous frères quand on est à Notre-Dame. Évidemment, c'est fait pour ça, une cathédrale. Mais, en même temps, comme dirait le président de la République, cette cathédrale a été faite pour une foi particulière. Et elle est porteuse de cette foi. Et si on veut qu'elle garde un sens, il faut qu'elle soit à tout le monde, mais qu'on se souvienne aussi de la raison pour laquelle elle a été construite. Sinon, c'est un monument... comme un autre, et on le garde, ben oui, parce que maintenant on garde les vieilles pierres, c'est très bien, mais ou parce qu'on se souvient qu'on a eu un tédéum pour le général de Gaulle, c'est très bien.
Un tédéum dangereux d'ailleurs.
Comment ?
Un tédéum dangereux.
Oui, dangereux.
Le général de Gaulle a failli quand même, non pas être fusillé, mais en tout cas, quasiment, il y a eu des tirs de...
Il y a eu des tirs.
Qui ont failli atteindre sa personne. Donc c'est un tédéum dangereux qui finalement a constitué, je dirais, la légende du général de Gaulle, l'homme qui s'assert, c'est-à-dire sacré, c'est-à-dire celui qui n'est pas atteint par les balles.
C'est juste.
Par les attentats, comme plus tard pour Bastien Thierry. Revenons à Notre-Dame, Michel Zinc. Dans ce que vous voulez dire, quand même, l'inconscient collectif, comme on aime à dire maintenant, n'est pas du tout au courant, il n'y a que vous pour ça, de ce que de Sully, Maurice de Sully...
C'est pour ça qu'il ne faut pas me faire parler,
au contraire.
Ça n'intéresse personne.
Que l'Église, effectivement, disons, un ascenseur social pour parler... en termes très ordinaires, que l'archevêque de Paris, que l'évêque d'ailleurs de Paris, a à ce moment-là écrit un homiliaire qui était un modèle, une sorte de livre du maître,
oui,
qui court d'âge en âge et qui finalement amène une transcription en français, qui est une langue qui devient la langue, je dirais, de l'usage alors que c'était le latin. Mais il y a aussi un aspect spectaculaire dans Notre-Dame par la location, c'est-à-dire que le fait qu'elle se trouve dans l'île de la Cité, ce qui n'est pas rien. Par office, ces deux tours qui sont considérées comme inachevées, souvenez-vous qu'il y a eu un grand débat avec Viollet-le-Duc, parce qu'il a posé avant d'elle la question de savoir si non seulement on ferait une flèche, au fond comme à la Sainte-Chapelle, mais si on rajouterait, on finirait les tours. C'est à ce moment-là qu'il était accusé à la fois d'être moderne et ringard. Donc, car en général, les gens modernes sont à la fois en avant et en arrière, ils ont une position médiane insupportable. Est-ce que vous considérez que dans l'inconscient collectif, qui ne sait pas tout ça, cette sorte de frisson qui a vraiment parcouru, je dirais presque le monde entier, parce que c'est quand même le monument le plus visité à Paris, je crois après la Tour Eiffel, si je ne m'abuse. Bon. On a beaucoup compté à ce moment-là les touristes et les pratiquants. Fait qu'il y a autre chose, que c'est une histoire de France, au fond. Oui. Et alors, le problème de restaurer à l'identique, je voudrais qu'on en vienne là. Le président de la République a dit le soir même, avec une fougue qui est le caractère même de sa personnalité, on va le rencontrer à l'identique. Freud vous dirait qu'en général, quand on perd un parapluie noir, si on va en chercher un autre à la rue des Morillons, même s'il est noir, ce n'est pas le même parapluie. Ça pose un problème, parce que l'identique n'est jamais le même. C'est pas. Et donc, quel est le thème qu'a voulu dire le président Pic cherche à abolir cet incident, on comprend. Il veut rendre à la cathédrale à la fois tout ce qu'elle a eu d'histoire et en même temps tout ce qu'elle va avoir de futur. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut faire du moderne avec du Moyen-Âge?
Non, évidemment que à l'identique est une manière de parler, n'est-ce pas? Ou une manière plutôt de parler qui ne correspond pas à notre sensibilité, qui correspond à celle d'autres civilisations. Si on va en Chine ou au Japon, on voit des temples qui sont en bois, donc qui sont reconstruits régulièrement, mais qui sont là depuis 5000 ans, enfin je ne sais pas combien, ou très longtemps, en tout cas pour la Chine, et qui sont considérés comme le même. Regardez, le voyage d'un roi au Japon en 65, vous y êtes. J'étais à la fin de ma première année, j'avais 19-20 ans. On nous montrait des temples et on nous disait, voilà, ce temple est très ancien, il a 3375 ans. On l'a reconstruit entièrement l'année dernière. Et voilà, ça c'est la reconstruction à l'identité. Mais ce n'est pas notre sensibilité. Mais ce que disait le président de la République avait un sens, tout de même. Et un sens qui était lié à l'émotion qui avait saisi le monde entier lors de l'incendie de Notre-Dame. Cette émotion n'était pas, évidemment, pour les 9 dixièmes, les 999, etc., la population, une émotion strictement religieuse. Mais c'était une émotion, tout de même, qui n'était pas exactement la même que si ça avait été un bâtiment civil, public, qui avait brûlé. Dans l'hiver, l'Arc de Triomphe avait été menacé, tagué, etc., on avait dit que c'était très vilain, c'était pas la même chose. Et même s'il avait été gravement endommagé, on aurait trouvé que c'était très vilain, c'était encore plus vilain, mais le monde entier n'aurait pas été saisi de stupeur, comme vous le disiez, comme ce jour-là. Il y a eu une forme d'émotion qui était teintée de spiritualité et on le sentait le soir même aux réactions des gens qui regardaient Notre-Dame brûlée et que les journalistes interviewaient. Et très souvent, on entendait, oui, ben moi, bon, moi je suis rien, moi je suis pas croyant, moi je suis pas, mais tout de même, Notre-Dame, c'est quelque chose. Et donc, on avait l'impression qu'il y avait comme une sorte de strate très enfouie qui remontait à ce moment-là.
Alors, est-ce que c'est pas l'occasion, justement, que cet incendie malheureux, d'un dévoilement de la spiritualité, un redévoilement du nature, du caractère saint et sacré donc de Notre-Dame de Paris, à cette occasion, parce que il y a effectivement des groupes de prière, on a vu, c'est bon, des jeunes notamment qui sont à genoux et qui récitent le chapelet in situ, si j'ose dire. Et puis il y a cette émotion collective qui s'intéresse également à la charpente, qui s'intéresse en même temps à la charpente et aux pompiers, aux chaînes millénaires et en même temps à la vie des pompiers qui sont ceux qui sauvent la cathédrale du saccage. Donc il y a un élément à la fois de barbarie, de mémoire. Tout ceci fait une grande confusion sentimentale, émotionnelle, mais ça redévoile aussi un passé d'un monument considéré comme touristique, qui est un monument sur lequel je suis frappé de ce que, dans les médias, peu osaient dire qu'il s'agissait tout de même d'un édifice religieux. Un de mes étudiants, je ne citerai pas parce qu'il a fait fortune à la télévision, n'a jamais pu employer le mot « cathédrale ». Il a parlé d'édifice religieux, de bâtisses, d'anciens monuments, mais jamais le mot cathédrale. et même Madame Lapix, à laquelle je le dirai un jour, avait du mal à prononcer le mot cathédrale. Alors, ça pose aussi le problème de ce rapport entre la laïcité, qui en France est une chose acquise, et le discours sur le religieux. Est-il possible, quand il s'agit d'un objet, d'un édifice médiéval d'une telle lourdeur ?
Oui, mais.
Parce que c'est le Moyen-Âge qui rétablit la spiritualité en France.
Oui, oui, Bon, mais oui. Moi, justement, je suis dans mon Moyen-Âge, et probablement que je ne dis que des bêtises sur l'actualité et sur ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que reconstruire à l'identique ne veut pas dire être absolument puriste dans la reconstruction. On peut, paraît-il, retrouver des chaînes, que ça se trouve. Et il faut moins de chaînes pour refaire la charpente de Notre-Dame qu'il n'en a fallu pour reconstruire la frégate l'Hermione. Ce n'est pas cela qui est absolument nécessaire. Si, à mon avis, si on reconstruit la charpente plus légère par d'autres procédés, à Reims, on l'a reconstruite en ciment. Ce n'est pas ça qui compte. Il y a, d'une part, pour l'ensemble de la population et du monde, une question de silhouette. De même que, vers 1850, à un moment où on vivait moins vieux qu'aujourd'hui, peu avaient le souvenir, ou personne n'avait le souvenir, de Notre-Dame avec sa flèche. Maintenant, le souvenir de Notre-Dame avec sa flèche est ancré, d'autant plus ancré que maintenant il y a des photos, enfin, on ne voit que cela. Là. Et si on reconstruit Notre-Dame sans flèche, il manquera quelque chose. Et d'autre part, reconstruire Notre-Dame différemment, laisser le rêve des architectes et le génie d'aujourd'hui s'épanouir, ce sera quelque chose qui sera nécessairement en contresens avec le bâtiment, parce que ce bâtiment a été construit pour être une cathédrale. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le remanier très profondément dans l'esprit de l'architecture d'aujourd'hui avec cette idée, comme des moines peuvent faire aménager leur église, cette église de revendication d'une spiritualité chrétienne. Ce ne serait pas accepté parce que, justement, Notre-Dame appartient à tous. De sorte que il y aura un jardin suspendu, n'importe quoi au-dessus, qui n'aura aucun rapport avec l'ancien édifice. Et c'est pourquoi la sagesse est de reconstruire à l'identique, en gros, comme c'était, pour que ceux qui sont attachés à la silhouette de Notre-Dame et au fait que Notre-Dame, c'est Paris, retrouve Notre-Dame, et que ceux qui voient dans Notre-Dame l'édifice religieux, la cathédrale de Paris, eh bien, cela ne soit pas frustré non plus. Que Notre-Dame représente Paris, ça existe depuis que les tours sont construites. Et on voit très bien, les tours ont été construites au XIVe siècle, on a bien longtemps, et dès que les tours sont construites, chaque fois qu'une miniature dans un manuscrit montre une scène qui se passe à Paris, on voit les tours de Notre-Dame. Ce sont les tours de Notre-Dame qui identifient Paris. On le voit, il y a une miniature magnifique de Jean Fouquet, mais dès avant, dans des miniatures qui illustrent les chroniques de Froissart, l'accueil d'Isabeau de Bavière par Charles VI, etc. Enfin, tout ce genre de scènes. Et puis, il y a quelque chose que j'ai dit, et vous savez, je radote, mais enfin, on fait dire. C'est qu'il y a quelque chose que nous connaissons tous, que nous pouvons tous chanter et qui montre l'importance des tours Notre-Dame, c'est Auprès de ma blonde. Et à la fin, on demande à la jeune femme, donc son mari est prisonnier des Hollandais, que donneriez-vous, belle, pour avoir votre mari ? Et elle dit, je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Versailles, la résidence du roi. Paris, sa capitale, Saint-Denis, la nécropole royale, les tours de Notre-Dame, le clocher de mon pays. et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Et donc, ça, Paris, ça ne suffit pas. Il faut aussi, pour avoir son mari, il faut bien qu'elle se tourne vers Dieu, il faut bien qu'elle le prie. Et elle le prie à travers les tours de Notre-Dame. C'est Paris, les tours de Notre-Dame. Et puis le clocher de son pays, parce qu'elle, elle est quelque part dans son village, et il y a ce clocher qui lui semble peut-être bien bas perché, comme dira Brassens, mais voilà, qui lui permet de plier le genou devant le bon Dieu de chez nous.
Il y a eu un retour violent du sacré, Michel Zinck, par le fait qu'une fois le brasier éteint et maîtrisé, on a vu la fameuse croix au-dessus de l'autel, qui est quand même quelque chose d'inattendu, qui était largement commenté comme étant un effet de miracle. Alors, il y a toujours le problème de savoir si la providence, c'est le hasard, ou au contraire, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Si le miracle, c'est le hasard, ou au contraire, c'est une intervention également providentielle. C'est un débat, je dirais, entre sacré et profane. Mais il y a eu tout de même des signes, je dirais, de retour au sacré à l'occasion de cette
intervention. Oui, avec cette présence de... Oui, le fait que la croix ait été sauvée, c'est... Enfin bon, je ne veux pas faire de mauvais esprit, puis c'est pas mon truc, mais... Tant qu'à faire, le bon Dieu aurait aussi pu faire que ça ne brûle pas, n'est-ce pas ? On est toujours...
Ça m'a toujours
frappé.
Je suis absolument d'accord avec vous du point de vue de la Providence.
Ces ex-voto qu'on voyait dans beaucoup d'églises, on voit reconnaissance 1914-1918. Mais bon, alors, il y en a un qui est revenu, effectivement. Bon, mais passons. C'est pour ça que quand j'ai écrit des contes chrétiens il y a 20 ans, j'ai bien laissé des miracles, mais enfin, c'est déjà pas si facile de croire s'il n'y a pas de miracles. Mais alors, s'il y a des miracles, ça devient vraiment difficile.
Je suis d'accord avec vous sur le rapport entre la providence et le miracle, mais le problème n'est pas là, c'est le fait qu'on l'ait ressuscité à cette occasion.
Vous avez tout à fait raison.
Un monde très prof, très profond. Alors, on a dit au début que, pas pour vous seulement, vous l'avez prétendu par un esprit de facétie qui vous est très, très régulier, mais c'est vrai que l'incendie est une humiliation pour la France et pour Paris tout de même.
Ah oui.
Est-ce que c'est votre sujet, l'humiliation? Oui. Le dernier sujet. Donc, parce que l'humiliation, vous avez fait, je dirais, l'objet d'un livre fameux, donc l'humiliation, le mariage et nous, et donc, je dirais, c'est l'humiliation du nous, par rapport à votre analyse de l'humiliation. L'humiliation, en fait, ça veut dire quand même tomber à terre, c'est ça, je veux dire.
C'est être mise à terre, oui.
On peut mettre le genou en terre, on peut être mis par terre.
C'est l'incendie de Notre-Dame était humiliant parce que, d'abord, ce n'était pas la première qui brûlait, et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire un chantier sans qu'il y ait un court-circuit. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Alors, pour mon histoire d'humiliation, pourquoi parlais-je du Moyen-Âge à propos de l'humiliation? D'abord parce que, comme vous avez vu, je ne sais pas parler d'autre chose. Mais aussi pour une raison fondamentale. C'est que l'humilité même n'est pas une qualité antique. L'humiliation est quelque chose qui fait horreur à tout le monde. Dans toutes les civilisations, il n'y a rien de pire que l'humiliation, parce que l'humiliation est ce qui marque et ce qui exclut de la société. C'est le pire châtiment. Et les châtiments sont toujours augmentés par l'humiliation. En France, il était digne de se faire couper la tête, humiliant d'être pendu. En Angleterre, on pendait tout le monde, mais il y avait une façon digne d'être pendu, une façon pas digne d'être pendu. Le rituel judiciaire, encore aujourd'hui, inclut l'humiliation. Mettre les menottes à quelqu'un alors qu'il risque pas de se sauver, c'est uniquement une humiliation. Le fameux, je ne sais pas comment on dise, shame walk des États-Unis, où quand on sort du commissariat, on ne vous met pas directement dans la voiture, dans la cour, mais on vous fait marcher sur le trottoir. Le fait que dans certains cas, le condamné ou l'inculpé même soit présenté devant le tribunal aux États-Unis en uniforme orange de détenu et non pas en civil. Voilà. Ce sont des formes d'humiliation rituelle qui existe encore. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous fait horreur. C'est quelque chose qui faisait naturellement horreur au Moyen-Âge, civilisation, société féodale, société de l'honneur, société par-dessus tout, n'est-ce pas ?
Or, et société hiérarchisée.
Et très hiérarchisée, et où chacun devait tenir son rang, chacun devait être habillé selon son rang. Comme on n'avait pas de carte d'identité, on ne pouvait prouver ce qu'on était que par l'allure qu'on avait. Et d'autre part, dans l'Antiquité classique, dont notre civilisation est nourrie, que le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on croit, n'avait pas du tout oublié, n'est-ce pas, mais se nourrissait. Dans l'Antiquité classique, ces mots qui veulent dire « aura terre » ou « sous terre » ne sont jamais pris en bonne part. « Humilis » en latin est toujours pris en mauvaise part.
Avec parvus.
« Tapeinos » en grec, qui a un même sens, est toujours pris en mauvaise part. Alors, du côté de nos autres racines, les racines bibliques, on trouve bien une humilité, mettons dans les psaumes, mais une humilité devant Dieu seulement, pas devant les hommes. Et au contraire, dans les psaumes, une fois qu'on a dit « je suis misérable », etc., on dit « puis mes ennemis sont méchants, enfonce-les dans la et puis montre-les comme je triomphe devant eux », etc. Or, dans notre civilisation, nous avons horreur de l'humiliation, mais nous prenons toujours, notre premier mouvement est de toujours prendre le parti de l'humilier. Même si nous ne sommes pas du côté de l'humilié, mais quelqu'un est humilié, nous sommes de son côté. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, qu'actuellement, où l'humiliation joue un si grand rôle, dès qu'on perd un match de tennis, on est humilié, dans des débats télévisés, quand le ton monte, etc., on voit très bien que celui qui cherche à humilier l'autre est toujours renvoyé dans les cordes.
Le public cas le plus récent, c'est l'arrestation d'un certain ministre à New York, qui a été arrêté, qui était menotté explicitement.
C'est à ça que je pensais.
Alors qu'il était de toute façon impossible qu'il s'enfuyât.
Oui.
Et l'autre cas qui est assez étonnant, c'est la commisération qu'il y a pour Carlos Ghosn, dont personne ne sait exactement quel est le niveau de fripouillerie dont on l'accuse, oui, et dont personne n'a aucune preuve, mais dont la description du destin de prisonnier au Japon fait frissonner d'horreur l'ensemble de l'opinion publique, et considère de toute façon... Il est presque absous par le traitement humiliant qu'on lui inflige.
Oui, oui.
Donc ça va dans le sens de ce que vous dites.
Exactement. Et alors, la raison de tout ça, une fois de plus, je reviens enfin à ce qui est le fondement de la civilisation médiévale, et tout de même lointainement de la nôtre à travers cela, c'est le christianisme. C'est une société chevaleresque, une société féodale, une société hiérarchisée de l'honneur, de la victoire au combat, de la puissance, de tout ce qu'on veut. Il y a l'Église même qui est puissante, qui cherche à l'être, vraiment, et une religion vous dit, Dieu s'est fait homme, première humiliation, hein, et il est mort dans les conditions la plus abjecte et la plus humiliante, et ce qu'on vous demande de faire, c'est de l'imiter, de pratiquer la pauvreté, d'être humble parmi les humbles, de passer le dernier, etc.
Bon. Oui, alors, il y a une reversion de ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre, c'est-à-dire que l'humilité, qui est donc la recherche de l'abaissement, à des fins, je dirais, d'honneur donné à celui que l'on adore, est renversé par le fait qu'on est glorifié.
Alors, oui.
Le Christ en exemple,
oui,
même.
Oui.
C'est vous qui le dites.
Oui, c'est moi qui le dis. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est passé, c'est que, justement, cette idée de l'abaissement de la croix était tellement insupportable, d'une certaine façon, qu'on l'a retournée en gloire de la croix, très vite. Déjà, chez Saint-Augustin, il a été humilié, mais humilié, il a été élevé, puisqu'il était sur la croix. Déjà, dans le texte fondateur de l'humilité, de l'humiliation dans le christianisme, qui est un passage de l'épître aux Philippiens de Saint Paul, il n'a pas retenu jalousement la gloire d'être Dieu, etc. Il s'est fait homme, il a accepté de mourir et de mourir sur la croix, aussi Dieu l'a exalté. Ça. Alors ce retournement, on le trouve partout. Comment ne le trouverait-on pas? Je pourrais en donner 1000 exemples. Et d'autre part, il fallait bien répandre cette religion, justement, on la prêchait. Donc plus elle triomphait, mieux c'était. On était pris dans une contradiction qui était insoluble. Et notre civilisation s'est construite sur cette contradiction. Et on en a fait cette contradiction, ce qu'on fait toujours avec les contradictions. De temps en temps, quelquefois, on l'a nié, on a fait semblant de ne pas l'avoir, on a essayé de se débrouiller avec, ou on a choisi un côté avec ardeur, etc. Mais cette contradiction, et donc cette sorte de mauvaise conscience, au fond, voilà, nous travaille depuis le Moyen-Âge, et là encore, alors que tout cela a été oublié, que plus personne ne connaît l'épître aux Philippiens, ni le reste, ni Saint-Augustin, eh bien, il me semble qu'il reste cela.
Alors avant de donner la parole au public, dernière question que je vous pose, comment c'est-il qu'aujourd'hui, l'humiliation est supérieure à l'humilité? Je veux dire, on a l'impression que le monde entier est humilié. Je ne donne pas de détails, c'est suffit de le journal du jour. Donald Trump humilie son ministre de la Défense, Theresa May est humiliée par monsieur Boris Johnson, etc. C'est-à-dire le commentaire de la vie politique et de la vie même culturelle, on est humilié. Monsieur Garmorin humilie un tel dans ses mémoires, etc. Et comment c'est-il qu'il n'y a plus d'humilité?
Oui, mais pas oui.
Est-ce que le Moyen-Âge recule alors que vous le défendez?
C'est très frappant, vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement frappant, et ce terme d'humiliation et cet emploi à tout propos de humiliation humiliée est quelque chose qui s'est développé dans des proportions énormes depuis le moment où j'avais fait ce cours, c'était même pas le dernier, c'était assez vieux, c'était vers 2010-2012, je ne me rappelle plus très bien, et le moment où le livre a paru, il y a 2 ans, je ne sais plus quand. Et,
il y a 2 ans, oui.
Oui. Et depuis, ça ne cesse de croître. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas plus l'humiliation, enfin évidemment que les racines sont toujours là, mais ce n'est plus l'humiliation en liaison avec l'humilité recherchée par le christianisme. C'est une humiliation insupportable parce que le modèle offert à chacun est finalement presque le devoir qui est imposé à chacun est un devoir d'épanouissement personnel. On nous impose d'être épanouis. On nous impose de réussir d'une façon ou d'une autre, pas forcément. Mais voilà, il faut être épanoui. Si on n'a pas le métier qui vous plaît, c'est pas bien. Si on jouit pas comme il faut, c'est pas bien. Voilà. Et du coup, toute humiliation. Voilà. Tout ce qui atteint ce narcissisme encouragé devient insupportable. Et malheureusement, je crois que le succès de l'humiliation aujourd'hui est plus de ce côté que du côté médiéval. C'est pas que je regrette le Moyen-Âge, mais enfin, etc.
Voilà. C'était une très belle époque. Alors, je vous remercie pour cet exposé, ces questions. Mais je suis toujours tourné vers mon interlocuteur, donc je n'ai pas dit. J'étais discourtois vis-à-vis de la partie droite de la séance. Donc la parole est à vous. Il suffit que vous leviez, que vous donniez votre nom et que vous posiez la question au professeur Cinq. Madame.
Et bonjour. Je suis malheureusement architecte et historienne, donc je vous embête un peu.
Et non, il est là pour ça.
Comment? Non, je sais. Je l'ai dit au rigolo. Encore, et pour moi, ce qui me stupéfait dans Notre-Dame, ce n'est pas tellement le témoignage de la force de l'Église et de la religion à l'époque, mais c'est plutôt les technologies qui supportent tout cela. Parce que quand on voit, j'ai fait un travail assez important sur Notre-Dame pendant mes études, donc ce qui m'a vraiment stupéfaite est la portée absolument incroyable et dans la largeur, la hauteur absolument incroyable, bien sûr, pour arriver à Dieu le plus rapidement possible. D'accord, la hauteur aussi, par exemple, des fenêtres, la taille des fenêtres, comme d'après Saint François d'Assise, il fallait apporter la lumière dans l'église. Et quand on compare Notre-Dame de Paris à d'autres églises ou d'autres monuments qui étaient construits à la même époque, par exemple à Angkor Wat en Asie, Angkor Wat, c'est rien du tout du point de vue technologique par rapport à Notre-Dame. C'est vraiment un succès technologique absolument incroyable. Et voilà, donc pour moi personnellement, je me demande si ce n'est pas intéressant d'apporter aujourd'hui un autre témoignage de nos technologies d'aujourd'hui, peut-être en plus de ce que de l'idée oui. d'être vraiment faire quelque chose de l'identique. Et quand on voit ce que dit l'ordre des architectes à ce sujet, et qu'il ne faut pas aller vite, contrairement à l'idée d'aller vite et de reconstruire le plus rapidement possible, mais de bien étudier la question pour voir ce qu'il faut faire. Mais pour moi, apporter un témoignage de nouvelles technologies d'aujourd'hui oui. peut apporter quelque chose.
Bon. Comment votre question, c'est au fond, c'est un bénéfice pour la recherche et pour l'architecture que Notre-Dame est brûlée le 14 avril, c'est mais, ça
oui, là,
on nous
madame,
donne une opportunité.
Je vous donne raison sur tous les points. Et justement, c'est pour ça que je disais que pour la charpente, enfin plus tout, les technologies d'aujourd'hui sont bienvenues. Je vous trouve, vous avez raison, en un sens pour Angkor Wat, où effectivement c'est une architecture qui ne sait pas faire de voûte large, les couloirs sont très étroits, etc. Mais enfin, c'est magnifique. Enfin, tout encore, c'est quelque chose de prodigieux. Et ça, il y a un génie et une originalité dans cette architecture absolument prodigieuse. Mais effectivement, la découverte de l'art gothique, la possibilité d'avoir des églises hautes, éclairées, de répartir, enfin, moi je parle en profane, mais de savoir répartir les masses sur des piliers de façon aérée, c'est une découverte prodigieuse. Si on pense, non, c'est même pas la peine d'aller aussi loin que le Cambodge. Le principe de la voûte d'arrêt donc apparaît en Normandie, un petit peu plus haut, un peu avant l'essai, etc. La Bourgogne connaissait la voûte d'arrêt, mais pas la croisée d'ogive, mais la voûte d'arrêt qui déjà répartissait les quatre masses de la voûte de façon plus équilibrée, de façon à ce que ça ne pèse pas complètement sur l'arc central. Mais au moment où on construit Notre-Dame de Paris, on construit aussi, et même un peu après, Vézelay. Dieu sait qu'il n'y a rien de plus beau au monde que Vézelay, c'est un lieu. Mais Vézelay, église romane très éclairée, presque trop fragilisée par ça, n'a pas encore assimilé ces techniques. Et ces techniques des architectes gothiques, que notre confrère Étienne Guy, secrétaire de l'Académie des sciences et mathématicien, a expliqué de façon limpide à une séance de l'Institut, en fonction des frottements, des pierres, c'est merveilleux. Bon. Ces techniques ont été à la source, une des sources de la redécouverte du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle, quand les architectes se sont aperçus que finalement on imitait sans arrêt les bâtiments antiques, les temples antiques, qui étaient très simples, c'était quatre murs et puis voilà, et puis pas de voûte, et où ils se sont, ce sont les architectes qui se sont d'abord intéressés de nouveau à l'architecture gothique, en particulier sous Flot, et montré ses travaux à Sainte-Bénigne à Dijon. Et plus tard, à la fin du XIXe siècle, c'est le modèle de l'architecture gothique qui a guidé l'architecture métallique des églises. Si vous allez dans Paris, l'église Saint-Joseph Travailleur derrière Montparnasse, Saint-Honoré-d'Eylau, si vous voulez, des églises de ce type. Donc ce génie a été bien perçu. Mais alors, effectivement, si on peut mettre les techniques les plus modernes et les plus nouvelles au service de cette reconstruction de Notre-Dame, très bien. Je ne voudrais pas que ce fût voyant. Et je dois dire, enfin, je vais dire du mal de l'Académie, je ne devrais pas. Nous avons un confrère éminent à l'Académie des Beaux-Arts, qui est un architecte, qui est M. Perrault, Dominique, il y a deux Perrault. Bon. Dominique Perrault, l'architecte de la Grande Bibliothèque, pour laquelle nous ne le remercions que du bout des lèvres, n'est-ce pas, bon, n'est-ce pas. Et M. Dominique Perrault a fait, avant que Notre-Dame brûle, avait fait un projet très élaboré, il y a un livre, ou comme cette table, n'est-ce pas, de réaménagement de l'île de la Cité. Là aussi, l'édifice récit. Alors, je l'ai entendu à l'Académie des Beaux-Arts présenter son affaire, là, et il a prononcé en trois quarts d'heure une fois le mot cathédrale, mais pour lui, le monument important de l'île de la Cité, c'était la préfecture de police. Et son idée était de faire de l'île de la Cité, un lieu touristique, une sorte de grand mall, comme ça, alors un centre commercial énorme, là, avec des parkings souterrains, avec des dalles de verre au-dessus pour qu'on puisse voir. C'était grandiose. Et voilà. Eh bien, je ne voudrais pas, je le dis avec tout le respect et toute la sympathie que j'ai pour lui, voir la reconstruction de Notre-Dame confiée à M. Dominique Perrault.
Vous venez d'assister en direct à ce qu'on appelle un jeu académique de première envergure qui s'appelle « Descendre un confrère en public ». Donc,
madame. La question est grave, sinon je ne me permettrai pas.
Non, attendez. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre... Je voudrais en parler avec Michel Zin tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser, madame?
Moi, je ne suis ni architecte ni compétente.
Vous avez le droit de parler quand même.
Je réagis...
Oui, et parler dans le micro, c'est sûr qu'on m'appelle.
Oui, je dis je ne suis pas architecte ni compétente en matière de construction, mais moi, ce qui m'a humiliée quand j'ai vu tomber le toit, etc., c'était une prise de conscience de voir combien on méconnaissait les héritages dans le présent. On est fiers, c'est cocorico, on est les meilleurs, etc. Et là, tout d'un coup, on était rappelé au fait que beaucoup de choses qu'on fait, qu'on a actuellement, viennent de très lointains ancêtres qui étaient tailleurs de pierre, qui n'étaient pas cultivés, qui n'avaient pas fait d'études, mais qui savaient faire des choses géniales. Alors, bien sûr, il y avait des gens qui les guidaient, mais c'est cette collaboration de plusieurs siècles qui, tout d'un coup, part en fumée et nous montre que, sans eux, on est vraiment à terre.
Ben oui.
Vous avez votre question, madame, s'il y en a une. C'est un constat ou une question ?
Non, c'était une constatation que nous ne pouvons que tous approuver.
C'est par rapport à l'humiliation.
Ah oui, tout à fait.
Oui, voilà.
Moi, c'est ça qui m'a humiliée.
Oui, oui.
C'est la prise de conscience que notre époque fait comme si le passé n'existait pas. Quoi.
Oui, là, moi, je suis plus terre à terre parce qu'il y avait tout de même des travaux. On essayait d'entretenir Notre-Dame, mais enfin, toutes ces églises sont mal entretenues, il faut bien le dire. On ne peut pas, puisque j'en suis, c'est ma minute de charité chrétienne et que j'ai du bien du prochain, on ne peut pas dire que jusqu'à l'incendie de Notre-Dame, la municipalité de Paris ait fait des efforts énormes pour les églises de Paris. Enfin, maintenant, on commence à faire attention.
Les petites églises, si.
Et, oui, oui. Mais enfin, il y a de grandes églises qui sont en très fort mauvais état. C'est bêtement, j'y connais rien, mais qu'on n'arrive pas à sécuriser un chantier. Parce que ce n'était pas la première fois. Il y avait eu un incendie à la cathédrale de Nantes, il y a eu dans des châteaux, il y a eu à plusieurs reprises ces dernières années.
Le Parlement de Rennes aussi.
Mais enfin bon.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a encore 10 minutes, vous pouvez poser des questions.
C'est sans obligation. Hein. On peut prendre un café pendant 10 minutes.
Personne n'est obligé de briser la glace, comme on dit. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier le professeur Michel Zinc, mon ami, mon confrère, de cette prestation, de ce jeu des questions et de son esprit.